A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Salut, c'est Victoire Tuillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité public. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Sculpté par Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek.
Il aura fallu 16 ans à Facebook pour interdire tous les contenus niant ou déformant l'Holocauste. Désormais, le réseau social américain dirigera même les gens vers des sources faisant autorité s'ils recherchent des informations sur le génocide nazi. Cette nouvelle politique, annoncée lundi par Mark Zuckerberg, a été décidée en raison de la montée de l'antisémitisme dans le monde et du niveau alarmant d'ignorance sur l'Holocauste, en particulier chez les jeunes. Des enquêtes ont montré que certains jeunes américains pensent que l'Holocauste était un mythe ou qu'il a été exagéré. Tracer les bonnes lignes entre ce qui est et ce qui n'est pas un discours acceptable n'est pas simple, mais dans l'état actuel du monde, je crois que c'est le bon équilibre, a expliqué le PDG de Facebook.
J'ai ouvert mon compte Twitter au printemps 2008 et mon compte Facebook en septembre de la même année. Ça fait donc 12 ans que quotidiennement je passe par ces plateformes pour y faire exactement ce que vous aussi vous y faites, m'informer, me divertir, m'énerver tout seul devant mon écran, etc., etc. 12 ans, ça commence à faire long et ça laisse le temps de voir s'installer tout un tas de mauvais réflexes dans et hors de ces plateformes. Un raccourcissement du temps de réaction et d'indignation et des boucles médiatiques qui vont avec, une défiance accrue face à la parole autorisée et à toutes celles et ceux qui la représentent, un temps infini passé à lutter contre la désinformation, sans succès souvent, tout en déplorant de voir prospérer sur tous ces travers les plus tristes représentants d'un populisme régénéré. Et alors que le plus connu d'entre eux tente en ce moment même, de l'autre côté de l'Atlantique, de s'accrocher désespérément au pouvoir, la question du rôle et de la place de ces outils numériques qu'on nous vantait jadis comme la dernière marche vers une libération totale des esprits est plus que jamais posée. Ce sera le sujet de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité pour en discuter, c'est un habitué des lieux, Olivier Herscheid, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Nantes. Il vient tout juste de signer un essai passionnant, Le Monde, selon Zuckerberg, aux éditions CEF. Un essai qui pose la question de la responsabilité justement des plateformes, en rappelant notamment à quel point la séquence politique autour de Cambridge Analytica et le scandale de manipulation de l'opinion il y a 4 ans avait changé notre perception de ces outils.
Le scandale Cambridge Analytica qui a été révélé après l'élection de Trump et après aussi le vote du Brexit, achevé de documenter ce dont on se doutait déjà en partie, c'est-à-dire qu'effectivement, ces grandes plateformes et ces réseaux sociaux sont amenés par leur capacité de résonance, par leur nombre d'utilisateurs, par leur intrication à chacune des sphères et des étages de nos vies publiques et sociales et privées, à jouer des rôles majeurs sur un plan politique. Et ce qu'est venu révéler, documenter et confirmer Cambridge Analytica, c'était alors non pas que Facebook peut faire gagner une élection ou est directement responsable de manière causale de l'arrivée de Trump au pouvoir, mais qu'en tout cas, il se joue sur ces plateformes des points de bascule à l'échelle d'une élection et que si elles sont utilisées d'une certaine manière dans ces périodes-là, elles sont en capacité effectivement de décider, par exemple, des gens qui n'étaient pas prêts à aller voter, de les décider à aller voter plutôt pour tel ou tel candidat, et même s'il n'y a pas, puisque c'est souvent un débat qui oppose un petit peu les spécialistes, mais même s'il n'y a pas forcément d'effet fort des médias, c'est-à-dire qu'encore une fois, si ces plateformes ne sont pas les seules, bien sûr, à décider de ça, parce que l'élection, c'est un processus multifactoriel et multicausal par excellence, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le rôle joué par ces plateformes-là et par tout leur écosystème, hein, parce que derrière une plateforme, Facebook, il y a évidemment les publicités politiques qui l'affichent, mais il y a également la manière dont les échanges de liens ou de publicité ou de références circulent dans ce qu'on appelle maintenant le dark social, c'est-à-dire dans les messageries privées, et donc tout à fait en dessous du niveau de ce qui est repérable. Et donc effectivement, ça a permis de faire évoluer, de changer notre regard sur ces plateformes et d'admettre, d'installer dans le champ social le fait que bah elles jouaient, c'était des acteurs politiques majeurs, au même titre que les médias classiques le sont depuis qu'on a inventé les médias classiques.
Et ce que toi tu décris et qui est saisissant dans cette histoire, c'est que cette séquence autour de Cambridge Analytica, elle sert aussi de révélateur pour Mark Zuckerberg et pour son équipe. Toi, tu le vois notamment dans cette fameuse audition face au Congrès américain où on l'a vu totalement désemparé et ressemblant, je crois que tu le compares à un collégien qui se fait engueuler par le proviseur. On ressentait cette espèce de sidération de son côté.
Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?
No.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, moi, c'est ce qui me frappe et ce qui m'interroge, alors, enfin, en tant que chercheur, mais aussi en tant qu'individu et que citoyen. Il ne faut jamais oublier qu'effectivement, Zuckerberg a inventé une plateforme qui était une plateforme de notation des plus belles filles du campus et qu'il se retrouve aujourd'hui à la tête d'un outil géopolitique ou géostratégique avec des enjeux absolument colossaux sur bien des aspects. Et donc, la question, c'est à la fois comment se prépare-t-il à gérer ces aspects-là? Et puis surtout, est-il en capacité de le faire? C'est-à-dire, quand il est confronté, et c'est ça, moi, qui m'avait particulièrement frappé dans la série d'auditions, là, aux États-Unis ou ailleurs, d'ailleurs, mais quand il est confronté à des enjeux qui sont de prime abord des enjeux politiques, on voit qu'il y a une forme de... Ouais, il est un petit peu désemparé, il semble en tout cas perdu. Bon, c'est quand même quelqu'un, lors de ses premières apparitions médiatiques ou devant des jurys ou des choses comme ça, il était jeune, on pouvait le soupçonner de n'avoir pas eu de média training et d'être habitué. Bon, là, c'est plus le cas. Et là, on voyait qu'il était sur le fond, pas tellement sur la forme, mais sur le fond assez désarçonné parce qu'on avait l'impression de quelqu'un qui se retrouve en situation de faire face à des problèmes qu'il n'avait pas imaginés et qu'il ne sait pas résoudre, hein, avec une espèce de principe de Peter qui avait été décrit dans un bouquin des années 70 où à force de monter en échelon et de se retrouver à la tête de structures et d'organisations pour lesquelles on n'a plus aucune compétence en termes de gestion, parce qu'au départ on savait fabriquer des sites web et mettre des gens en relation, et bien effectivement cette incompétence elle ressort. Et le problème c'est que alors cette incompétence ou ce désarroi ou cette incapacité en tout cas à traiter de ces problèmes là elle affecte au premier plan 2,5 milliards d'individus sur la planète. Et on a encore eu un exemple tout à fait récent avec une prise de position de Zuckerberg sur la question de la Shoah, où il explique qu'ils ont durci les CGU de Facebook pour considérer que le négationnisme ou la relativisation, on va dire, de la Shoah serait maintenant immédiatement sanctionné et que les gens seraient bannis parce que, dit Zuckerberg, j'ai vu des données qui me montrait qu'il y avait une montée des agressions antisémites. Et on se dit, mais 2021, que n'a-t-il pas vu ces données-là avant pour comprendre qu'il y avait un problème majeur dans la manière dont Facebook traitait les discours antisémites, notamment au sein de sa plateforme, en s'abritant toujours derrière la fameuse liberté d'expression à l'américaine, où le racisme, effectivement, n'est pas un délit ou un crime, mais une opinion. Donc... sur toutes ces questions-là, et notamment sur les aspects politiques et géostratégiques, on sent bien que Zuckerberg a des formes soit de fragilité, soit d'incompétence, ou en tout cas qu'il ne sait plus par quel bout prendre ses affaires, d'autant qu'il est lui-même. Hein, là, c'est assez simple de poser ça en tant que chercheur ou observateur, mais on imagine bien sûr aussi qu'il est lui-même au centre d'un jeu très très dense d'influences et d'intérêts géopolitiques, économiques et ainsi de suite. Mais ça n'empêche pas que, encore une fois, comme il est à la tête de ce qui est un espace public délibératif aujourd'hui manifestement insincère, il faut qu'il s'oblige à donner un cadre à ce qu'il veut faire du projet politique de sa plateforme. Et ça, pour l'instant, il ne semble pas y arriver.
La sincérité, c'est un des éléments sur lesquels toi tu t'attardes, notamment du point de vue de la menace que représente Facebook pour la démocratie, dans la manière dont notre usage peut finir par venir ronger cette idée de sincérité qui accompagne le geste démocratique ultime qui est le vote.
Dans un processus électoral et démocratique, dans la représentativité sur laquelle est bâti ce processus, il y a effectivement ce qu'on appelle une sincérité du vote, c'est-à-dire que les gens ont conscience, à un moment donné, à un instant T, vont se décider à mettre tel ou tel bulletin dans l'urne, pour des raisons qui d'ailleurs peuvent varier. Si le vote avait été décalé d'une semaine, certains auraient pu être différents. Mais moi, ce qui me préoccupe à l'échelle de ces plateformes-là, c'est le... Dans la mesure où ces plateformes-là organisent et articulent des espaces démocratiques qui sont à la fois des espaces publics, sincèrement, parce qu'on est très nombreux à parler et à voir plein de choses, et en même temps, et tout aussi sincèrement, j'ai envie de dire, des espaces privés qui sont de l'ordre de l'alcôve, de la chambre à coucher, du dialogue entre un très petit groupe d'amis. Donc dans la manière dont elles articulent ces deux espaces-là, et dans la manière qu'elles ont de refuser de les positionner comme des espaces à chaque fois exclusifs ou sincères, elles entretiennent un flou perpétuel qui fait le lit, alors effectivement, de ce qu'on voit souvent dans le traitement médiatique de ces plateformes, c'est-à-dire les fake news, le complotisme. Ok, il y a tout ça, mais il y a quelque chose de plus profond et de plus malaisant de mon point de vue, qui est l'incapacité des gens dans leur expérience d'usage de ces plateformes de savoir à quel moment ils sont dans l'alcôve et dans la chambre à coucher et à quel moment ils sont dans l'agora et dans l'espace public. Et si l'on ne sait pas en démocratie à quel moment on est dans le public, dans le privé, c'est-à-dire écouté ou à l'abri des regards, surveillé ou non surveillé, et ben du coup, manifestement, au moment de faire ses choix et au moment de construire son cheminement intellectuel qui va nous décider pour plein de raisons à voter plutôt de tel côté ou de tel autre, on grignote cette logique de sincérité, ce cheminement qui est spécifique à chacun d'entre nous, et au final on produit de la confusion, on sape les repères qui peuvent être parfois mouvants, hein, mais qui en tout cas sont au moins clairement articulés entre les espaces délibératifs publics et les espaces de discussion privée. Et c'est ça pour moi qui est l'enjeu une des causes majeures de tous les problèmes que posent aujourd'hui ces plateformes-là à l'échelle démocratique.
C'est pas la première fois qu'on a ce type de conversation, déjà toi et moi, dans ce podcast. On est loin d'être les premiers à l'avoir. Ça fait longtemps que des chercheurs dont tu fais partie alertent sur ces sujets. Donc on est particulièrement sensibilisé à cette problématique. On sait quelque part qu'il y a un loup. Malgré tout, on continue à se faire piéger par l'algorithme. Est-ce qu'à un moment, on peut être plus fort que l'algorithme ou est-ce que l'algorithme est de toute façon plus fort que nous ?
Plutôt que d'opposer algorithme et libre arbitre, je préfère expliquer qu'il y a des formes de déterminisme algorithmique. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait conserver, et heureusement on les conserve souvent, des formes de libre arbitre quand on est en train de s'informer, de jouer ou de naviguer dans ces espaces-là. Pour autant, ce sont des espaces qui sont construits de manière téléologique, c'est-à-dire avec une finalité, qui sont supposés nous amener vers quelque chose. Et c'est ce déterminisme algorithmique qui est parfois distant, parfois confus, parfois semi-clair, semi-obscur, qui sur lequel des fois on a des phases de relâchement cognitif naturel, de la même manière que quand on regarde la télé, parfois on se surprend soi-même à regarder des bêtises, et puis voilà, ça nous fait du bien sur l'instant. Mais dans ces plateformes-là, ces temps de lâcher prise, ces paresses cognitives, elles sont instrumentalisées aussi à dessein par l'architecture technique des plateformes. Et du coup, quand on superpose les deux, c'est-à-dire Ce déterminisme, ces déterminismes algorithmiques qui visent à nous faire, pour faire simple, consommer plus, passer plus de temps à regarder tel contenu polarisant, plus des architectures techniques qui nous enferment et qui nous installent dans ces paresses cognitives, ben quand tout ça vient interférer avec le champ social, on parlait du vote, mais on pourrait parler de d'autres sujets de société, sur l'IVG, sur, que sais-je encore, la peine de mort, puisque on en est encore à relancer ou à se poser la question de savoir s'il faut relancer le débat sur ces questions-là, et ben là, effectivement, il y a un vrai terrain glissant et il y a un vrai risque de voir des formes de libre-arbitre qui vont se taire ou s'écraser derrière ce qui va être présenté comme des points de vue dominants ou méritant en tout cas d'être débattus à un instant T. Et là, les plateformes, pour le coup, ont une responsabilité, à mon sens, qui est une responsabilité éditoriale directe.
Dans la manière de gérer cette responsabilité, justement, toi, tu convoques quatre figures, qu'on va dire, de pop culture, qui résument un peu l'attitude des grands patrons, des grandes têtes pensantes des nouvelles technologies. C'est Superman, Spider-Man, Peter Pan et le Dr Frankenstein. Est-ce qu'on peut expliquer un peu qu'est-ce que ces quatre personnages représentent dans la gestion des problématiques et de la responsabilité des plateformes?
Effectivement, il y avait ces quatre figures quasi mythologiques qui me paraissaient assez exemplaires. Alors, Spider-Man, c'est parce que effectivement, il y a la célèbre phrase un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et qu'on voit bien, quand on parlait tout à l'heure de Zuckerberg totalement défait devant le Congrès américain, bah typiquement, c'est quelqu'un qui réalise qu'il a ce pouvoir-là, mais que la responsabilité qui lui échoit derrière, il est sincèrement incapable de l'assumer. Alors après, il y a le syndrome de toute-puissance, hein, à la Superman, effectivement, où on le voit encore, on en parlait tout à l'heure. Quand il découvre qu'il a la capacité de bloquer les discours négationnistes ou révisionnistes parce qu'il a vu des données qui montraient que, il décide de le faire et du jour au lendemain, 2,5 milliards de personnes vont se voir, alors là, en l'occurrence, c'est tant mieux, mais privées de ce type de discours-là. Mais depuis des années, il a décidé que voir un téton de poitrine féminine, c'était de la pornographie et donc 2,5 milliards de personnes aussi sont privées de ces images-là sur Facebook. Donc Spider-Man, Superman. Ensuite, il y a effectivement le côté Frankenstein, c'est-à-dire la créature qui va dépasser un petit peu ou qui va s'autonomiser. Alors, Facebook n'est pas une créature faite de chair qui est capable de s'autonomiser, mais moi, ce qui m'intéressait de questionner derrière le mythe de Frankenstein, c'était de voir qu'effectivement, et là aussi avec cette espèce de lâcher-prise de Zuckerberg, on voit que ces plateformes-là, on pourrait dire la même chose d'autres plateformes équivalentes, elles ont une forme d'autonomie technique, c'est-à-dire que ce sont des construits techniques, des artefacts, autour duquel des intérêts et des acteurs vont venir mobiliser, des intérêts économiques, c'est des acteurs économiques, des intérêts politiques, c'est des acteurs politiques, et la plateforme, elle va répondre, en fait, à chacun de ces acteurs de manière autonome, c'est-à-dire que si vous êtes un politique, sur Facebook, vous aurez des écosystèmes et des situations de discours qui vous seront proposées par ces déterminismes algorithmiques, qui seront adressés à des catégories particulières, idem si vous êtes un acteur économique. Donc, chacun, en fait, en miroir, va, en quelque sorte, animer une partie de cette créature de Frankenstein que sont devenues ces plateformes-là. Et puis la quatrième, j'ai oublié, c'était Peter Pan, parce qu'il y avait effectivement, alors c'est pas tellement le refus de grandir ou d'entrer dans l'âge adulte, mais c'est plutôt dans le rapport à la loi, ou si on peut considérer que le rapport à la loi est ce qui définit en tout cas l'entrée dans l'âge adulte, avec l'acceptation de tout ce que ça convoque. Et ben effectivement, on voit que ces plateformes-là, par rapport à la loi des hommes, pour reprendre une formule connue, elles ont plutôt fait le choix des règlements de cours de récréation, c'est-à-dire on est entre pairs, on définit un règlement qu'on appelle un CGU, Condition Générale d'Utilisation, et dans ce règlement, alors on essaie bien sûr de faire en sorte de respecter la loi, mais c'est pas la loi qui prime. Ce qui prime, c'est l'entre-soi, c'est on se met d'accord entre quelques ingénieurs au départ, et puis on décide que chez nous, mais sauf que chez nous, c'est aussi un petit peu chez 2,5 milliards d'individus, et ben on n'aura pas le droit de poster tel type de photo, on n'aura pas le droit de tenir tel type de discours, et dans le refus, encore une fois, d'aller au bout et tout simplement de faire appliquer la loi avant de réfléchir à sa déclinaison au travers de CGU, c'est cette figure-là, moi, du rapport à l'autorité qui m'avait paru pouvoir être mobilisée par rapport à l'histoire connue et au mythe de Peter Pan.
Est-ce que ces différents constats, ils nous évoquent aussi, et tu le mentionnes dans le livre, c'est le chemin parcouru, pas forcément dans le bon sens, depuis les premiers grands penseurs de ce qu'était le numérique. Donc il y a Lawrence Lessig, il y a John Perry Barlow aussi, il y a Tim Berners-Lee. Ils sont très nombreux à avoir comme ça imaginé ce que pouvait être l'outil balbutiant qu'ils avaient entre les mains. On est à peu près dans le scénario pessimiste qu'eux avaient déjà envisagé, vu qu'ils avaient déjà fait des signaux d'alarme quasiment dès les premiers déploiements du web.
Oui, bah c'est ce que je disais ça l'autre soir en répondant à une question là sur une petite présentation de l'ouvrage où effectivement l'idée c'est quand Tim Berners-Lee et les autres ont inventé théorisé les outils qui sont ceux du web aujourd'hui, ils le faisaient dans un cadre qui était un cadre non contraint, c'est-à-dire effectivement avec un désintérêt des États, avec des enjeux économiques qui étaient à l'époque inexistants, hein, 89 quand Tim Berners-Lee invente le web, personne n'imagine qu'on va pouvoir gagner de l'argent avec. Et lui-même le dit aujourd'hui, c'est-à-dire il dit effectivement, moi quand j'ai eu 4 ans plus tard à me poser la question en 93 de savoir ce que j'allais faire de tout ça, parce que là je voyais que ça commençait à marcher un petit peu et si je déposais des brevets par exemple dessus, il dit bah, j'ai choisi de ne pas le faire parce que j'ai tout de suite compris que si je fermais ces technologies-là, on allait installer le monde qui est le monde actuel, c'est-à-dire qu'on allait avoir non plus un espace public, mais un alignement d'espaces privés de plus en plus imperméables les uns aux autres. On allait avoir non pas un web délibératif, mais des stores, enfin des magasins d'applications marchands. Donc tout ça est venu, enfin effectivement, le web dans lequel, ou le monde numérique dans lequel a grandi l'apprenti ingénieur Zuckerberg, n'est pas celui qui était celui du trentenaire Tim Berners-Lee dans les années 90 quand il déploie ces technologies-là. Et donc, le constat ou l'avertissement de ces gens-là est d'autant plus fort qu'effectivement, tout ça n'est pas une surprise. On en connaît à la fois les causes et les effets. Et aujourd'hui, notre incapacité générale, en tout cas, à revenir en arrière, ben, elle vient du fait qu'on est... On est effectivement prisonnier à la fois dans le champ social et dans le champ politique. On est installé dans un mal confort technologique qui nous rend bien des services à bien des égards et qui nous empêche, comme une espèce de point aveugle, d'aller jusqu'au bout de notre interrogation sur des technologies qui ont aussi des capacités de nuisance. Et donc, on s'en sort pas. On tourne un petit peu en boucle. Et pour sortir de la boucle, l'idée que je défends, c'est qu'il faut agir sur 3 leviers. Le premier, c'est évidemment la régulation. C'est-à-dire, on a besoin effectivement de lois ou de règlements cadres, en tout cas, à l'échelle européenne. On a besoin de jouer sur l'éducation parce que il n'y a pas d'autre clé que celle-là. Hein. Un utilisateur informé, c'est un utilisateur libéré pour faire un slogan en marketing rapidement. Et puis ensuite, c'est le levier de l'opinion. C'est-à-dire que, et on le voit encore avec, encore une fois, la décision de Zuckerberg annoncée hier sur la question de la Shoah et du négationnisme. Ces gens-là ne se saisissent de ces questions qu'à partir du moment où il y a un point de bascule qui s'effectue dans l'opinion. Et on l'avait vu sur la vie privée, Antonio Casilli l'avait remarquablement expliqué en disant « la vie privée, c'est devenu une affaire de négociation collective ». Ben là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas ce rapport de négociation collective, ça n'avance pas. Et pour que ce rapport de négociation collective s'installe dans un cadre clair, il faut un cadre juridique clair et il faut des citoyens qui sont acculturés à ces questions-là. Et si on joue sur les 3 leviers en même temps, on avance. Mais si on les prend les uns après les autres, de manière linéaire, eh ben, à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière sur l'autre.
Et je le redis, le livre de notre invité, Le Monde selon Zuckerberg, il est dispo aux éditions CEF. Merci à Olivier Hirschheid pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.